taverne du vieux Londres, où se retrouvaient des étrangers. Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, et nous écoutions nos cœurs chanter.
Bonjour à tous, bonjour chers chroniqueurs de Je m'ennuie bien, bonjour Madame Ginette, bonjour Monsieur Kogan, bonjour Monsieur Edmond, nous voilà réunis.
Bonjour. Oh mais il y a tout bonjour. Le monde.
Bonjour, bonjour.
Oh là là, c'est... même Monsieur Kogan nous fait des voix, c'est super. On va se croire dans le Mopet Show. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe quand on regarde la télé, on se croit dans le Mopet Show. Alors... Eh ben, j'ai quelques petits titres. Oui, Monsieur Kogan.
Bah, quand on écoute Fabien Roussel, ces jours-ci, on est dans la très mauvaise période du Colaro machin.
C'est vrai, il est torse nu, voilà. Il fait la playmate.
Voilà. Il a fait une tribune dans Le Monde qui n'est pas du tout Mopet Show.
Ouais, bah, il a fait une énorme vanne très 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 dégoûtante sur la secrétaire générale nationale des Verts. Voilà, voilà.
Oh, ça, c'est pas bien.
Ouais, ça m'étonne pas trop quand même. Bon, alors, on va pas épiloguer. Moi, je pensais que la semaine de vacances serait calme. Que nenni, que nenni. Allez, on va parler de quelques petits titres avant de donner la parole à Madame Ginette. Animaux, c'est pour commencer tendrement. Au Canada... Un zoo fait venir un interprète pour venir en aide à un ours polaire québécois. Eh oui, okay. Il faut le savoir. C'est pas tout ça, mais bon, un ancien membre de l'équipe francophone a dû venir parce que l'ours, il comprenait rien aux Anglais. Ce que je peux comprendre.
Hein. Ouais. Et s'il est énervé, ça peut vite être compliqué.
Eh ben, c'est ça.
On se croirait dans le film de Michael Moore sur le Canada, film dont j'ai oublié le nom, mais qui est très, très recommandable.
Ah, la Troisième Guerre, je sais pas
oui,
quoi.
Oui, c'est très, très drôle.
C'est très bon, ouais.
Allez, celle-là est aussi très intéressante et peut-être que nos décideurs nous entendent. Excès de vitesse de 29 km/h. Un Finlandais écope d'une amende de 120 000 euros qu'il accepte.
Pardon ?
Je refais. Excès de vitesse de 29 km/h, un Finlandais écope d'une amende de 120 000 euros qu'il accepte.
Mais c'est pas parce qu'en Finlande, les amendes sont proratisées aux...
Absolument, Madame Ginette, elles sont indexées sur vos revenus.
Voilà.
Donc Anders Vilkoff, homme d'affaires de 79 ans, il n'en est pas à sa première amende de ce montant. Donc c'est pas de chance puisqu'il a été contrôlé à 59 km/h dans une zone limitée à 30. Donc ça fait quand même cher le dépassement, là. Quand on voit comment les gens roulent en France. Enfin bon. Et donc, au volant de sa Bentley, donc déjà, bon, vous voyez. Et alors, effectivement, le montant, on calcule sur vos revenus un jour amende. Et après, suivant l'infraction, ben, vous devez payer tant de jours amende. Voilà. Donc, en plus, comme là-bas, les Finlandais estiment que c'est très, très grave, les dépassements de vitesse, et ben voilà, 120 000 euros. Bon. Je ne sais pas s'il a gagné grand-chose, hein, parce que 59 au lieu de 29, bon... Allez, c'est très à la mode dans le monde entier. En Indonésie, 70 millions d'enfants privés de réseaux sociaux après l'entrée en vigueur de l'interdiction d'accès aux plateformes numériques.
Officiellement.
Ouais, non, mais j'aime bien rien que le chiffre, quoi. 70 millions d'enfants là-bas.
Ah ben, c'est l'Indonésie, c'est pas le Luxembourg, hein.
Alors qu'en France, on a 70 millions de vieux. Non, pardon. Alors, bon, voilà, bah, c'est pas mal. Bon, alors, évidemment, la Grèce devrait également bloquer. C'est la Nouvelle-Zélande qui avait ouvert le feu, me semble-t-il, c'est ça ?
L'Australie.
Enfin, bon, voilà. Donc, vous voyez, ça bouge dans ce domaine, ça bouge. Et pourtant, Dieu sait si TikTok, Instagram et les autres emploient des gens pour que les enfants soient bien accros. Mais bon, je ne sais pas si on va réussir. Wanted. Xavier Dupont de Ligonnès, désormais visé par un appel à témoins au Texas.
Oui, oui, oui. Et c'est un shérif là qui l'aurait retrouvé, soi-disant.
Juste à côté d'Elvis Presley et de JFK.
Ah, on sait pas.
Si Dupont de Ligonnès est vivant, le plus probable qu'il soit, ce serait aux États-Unis.
Oui.
Parce que c'était vraiment un atlantiste de fou, un dingo de tout ce qui était Route 66 et mystique autour. Donc, ce serait pas complètement délirant qu'il soit là-bas s'il est quelque part.
C'est bien qu'il le recherche, hein, parce que c'est quand même un serial killer, le mec. Donc,
Oui. Ou enfin, ils sont plus à sa près, là.
Cher Jamy, si vous avez une terrasse, regardez dessous. Si j'étais... Non, je vais d'abord... C'est Madame Henriette qui m'a attiré l'attention sur cette information, puisque Elma Correa, écrivaine mexicaine, alors j'ose pas dire le titre de son roman, parce que je vais me faire engueuler encore, Donde Termina El Verano.
Enfin, c'est à peu près le même accent que quand vous parlez anglais, sauf que là, vous appliquez votre rancœur contre les langues à l'espagnol, c'est tout.
C'est horrible.
Alors,
c'est assez moche, oui.
Non, mais c'est non. pas. Je, non, mais, non, je... mais
soyez heureux. Elle est lauréate du prix Bibliotheca et c'est un prix qui est donné par les maisons d'édition espagnoles. Je vais pas dire son nom comme ça. Voilà, à Barcelone.
D'accord.
Et donc, elle a déclaré lorsqu'elle a eu le prix. Ça a dû être sympa la remise des prix. Hein. Si j'étais un homme ou si j'étais blanche, j'aurais remporté ce prix il y a 15 ans. Merci. Oh, fermez le banc.
Voilà.
Ils ont bien fait de l'inviter.
Allez, on l'entend beaucoup ces temps-ci. Évidemment, il ne dit que des conneries. Mais bon, vous allez voir que ça s'explique. J.D. Vance, qui est seulement vice-président des USA. Des êtres célestes qui volent partout et qui font des choses bizarres aux gens. Président J.D. Vance se dit obsédé par les ovnis.
Non, parce que ça, c'est la définition des moustiques.
Ben, oui, il confond peut-être. Voilà, tout va bien, tout va bien.
Tout va bien.
Allez, beaucoup plus tragique. Plus de 413 000 unités de notre nouvelle gamme de chocolat ont été volées. Des pénuries de Kit Kat à venir.
Ah non ?
Eh si, faites des stocks les enfants !
Oui.
On va faire Monsieur Kogan.
Je vois qu'on nous parle de beaucoup de choses en termes de pénuries, mais on nous cache la vérité. Et les désastres à venir.
Cache l'essentiel.
Bien sûr.
Ou achetez-les au marché noir, parce qu'évidemment...
On nous ment.
Il y en a forcément qui vont... Parce que je ne pense pas que c'était pour une consommation personnelle. Mm. 413 000, quand même, ça fait beaucoup.
Vous allez, alors, si vous êtes Toulousain, logiquement, vous devriez les retrouver sur le marché de Saint-Cernin le dimanche.
Mais Madame Henriette, enfin, qu'est-ce que c'est cette délation à deux bas étages?
En général, quand quelque chose est volé, c'est là qu'on le retrouve.
On se croirait dans un débat public, enfin... Alors, un titre qu'on voit souvent, des requins positifs à la cocaïne aux Bahamas.
Alors, plus en plus mauvais genre, les requins, je vois.
Et donc, les chercheurs ont fait des tests et 5 espèces de la région ont ainsi montré des traces de cocaïne, de caféine et de paracétamol. Et la raison de la contamination, pardon, le tourisme.
Ah ben oui.
Ça voilà, ils bouffent un touriste et après, voilà dans quel état ils sont.
C'est ça.
Bon, je vais peut-être postuler pour être requin aux Bahamas. Ça a l'air sympa comme boulot.
Oui. Alors, alerte chez les vampires, du coup.
Je tiens à préciser que le titre suivant est un titre du Figaro. Ah. C'est important, vous allez voir, parce que d'habitude, quand même, ils sont plutôt à la cool sur ce genre d'informations. Et là, c'est même un peu comique. Détournement de fonds publics, 2 points. Énième retour au tribunal pour Patrick Balkany.
Oui, la droite même.
On ne le présente plus, le VIP des salles des pas
la
perdus.
Star.
Et alors, Patrick, qui n'en rate jamais une, est arrivé. Et l'un des premiers trucs qu'il a dit au tribunal, oh, je trouve ça invraisemblable de me retrouver ici.
Eh, mais sa carte de Miles du tribunal doit être blindée.
Je sais pas. Il
a gagné un procès gratuit, non?
Oh, plusieurs, je pense, hein, vu où il en est, là. Allez, Madame Ginette, c'est à vous, dont je m'ennuie bien.
Eh bien, bonsoir. Donc, quelques brèves, pour le coup, brèves du monde tragique. Et je vais commencer, puisqu'on parle du monde tragique, par aller en Corée du Nord. Enfin, pas vraiment, parce que je voudrais pouvoir revenir. Mais figurez-vous que maintenant, sur pas mal d'entreprises de la tech, où on ne fait que télétravailler, où on ne se voit plus jamais dans les bureaux, etc., certaines entreprises ont très, très peur que dans leur recrutement à distance, ils aient des espions de Corée du Nord.
Ah.
Donc, ils ont trouvé une astuce pendant les entretiens de recrutement pour être sûr que les personnes qu'ils recrutent, qu'ils pressentent au minima, ne soient pas des espions nord-coréens. Comment font-ils ?
Ils leur disent ils leur ordonnent de dire des méchancetés sur Kim Jong-un.
C'est exactement ça. Ils leur ordonnent de dire que Kim Jong-un est un gros porc.
Ah ouais ?
Ouais, c'est fort. Donc le mec, il ne sait même pas qui c'est, il se dit « Mais pourquoi il me demande ça? Ils sont complètement atteints dans cette boîte. Non, je ne veux plus venir. »
Moi, je pensais... Donc effectivement, quand vous avez quelqu'un en face qui dit « Oui, alors, en fait... » Et qui même souvent coupe la communication directe.
Bon, ben là, on sait dans quel pays on était.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, apparemment, comme tout est filmé, enregistré, surveillé, ben évidemment, ils ne vont pas le dire même pour rigoler.
Oui. Ben, quand même, si c'est des espions, ben, ils sont bien mal formés, hein.
Alors, de fait, vous imaginez le dilemme du Nord-Coréen.
Si
parce
vous êtes un espion, c'est que vous êtes en mission.
Il dit Kim Jong-un est un gros porc, il est sanctionné. Il rate l'entretien d'embauche, il est sanctionné. Et la sanction, en général, elle pique. Hein.
Ouais, enfin bon.
C'est ça.
Aïe, aïe, aïe.
Ces pauvres Américains ne savent plus quoi faire. Hein. Bon, alors, ensuite, pour s'occuper en tout cas.
Je vous amène maintenant au Québec pour une petite histoire un peu rigolote. Donc, ça se passe aux alentours du Nouvel An chinois et donc dans un restaurant asiatique tenu par une Québécoise d'ascendance chinoise. Et un des clients lui a volé une décoration murale qu'elle avait mis exprès pour l'occasion. Et quelques jours plus tard, un mec arrive, cagoulé, casque de moto, passe derrière elle et lui dit « J'ai la décoration, tu pourras la retrouver si tu me donnes 500 euros. » Enfin, l'équivalent de l'art canadien de 500 euros. Et là, la dame part d'un fou rire extrême. Pourquoi ?
Alors, cette décoration était moche ?
Alors, peut-être, ça, j'en sais rien, les goûts et les couleurs, mais surtout, au-delà d'être moche, elle était...
Fausse.
Pas chère.
Ah.
C'était une espèce de fausse déco d'apparat à l'occasion du Nouvel An chinois, et ça coûtait 12 euros. Donc, elle lui a ri au nez, donc le mec s'est enfui en courant.
Mais pourquoi il a fait ça alors? Ça ressemblait, il avait l'impression que c'était en or?
Oui, voilà, a priori.
Il n'a jamais été dans un restaurant chinois avant, quoi.
Déjà pour commencer, puis c'était peut-être pas le glaçon le plus frais du congélo. Hein.
Ah, visiblement, oui. Non, parce qu'ils aiment bien clinquant quand même dans ce genre d'endroit.
Ben, c'est ça, puis surtout, ouais, c'est Nouvel An, c'est.
Faut que ça
c'est
brille.
Ça brille, exactement.
Il a pas à voler le tableau avec la magnifique photo rétro-éclairée.
Non, malheureusement. Donc voilà.
On ne sait plus quoi dire.
Et je voudrais.
Oui, finissez, pardon.
Je voudrais finir aux Pays-Bas sur une initiative, sur une chouette initiative, mais revenir à l'origine de cette initiative qui est un peu horrible. Alors, l'initiative s'appelle Speech van Tattoo. Je ne parle pas le néerlandais, je pense que tout le monde l'aura remarqué. Et c'est donc une femme qui l'a mise en place et qui promeut en fait la gratuité du détatouage aux personnes volontaires qui... Dans un cas de figure bien précis, dans quel cas est-ce que le détatouage leur est offert par le biais de cette association?
Ben quand on divorce?
Non.
Et qu'on avait mis vous... I love je sais pas qui? Non, pas le divorce. Non.
Vous tournez un peu autour, sachez que c'est nettement plus sordide, mais que vous êtes sur la bonne voie.
Quand la personne est morte?
Non.
Ben quand la personne est morte, c'est moins gênant de laisser le nom quand même. Enfin, Madame Henriette.
C'est ça.
Non, mais alors, Madame Henriette, d'accord, elle s'est fait tatouer le nom de son chéri et quand il meurt, allez hop, on l'enlève. Hein, on passe à autre chose, hein, c'est bon. Hein.
On passe à la suite.
Il ouais. Bah, faut laisser de la place pour le successeur.
Le nom suivant. Non, la femme qui a fondé cette association a été tatouée plus de 250 fois sur 90% de son corps
par son
ex-conjoint complètement toxique qui lui a tatoué son prénom à lui pour être sûr qu'elle n'allait pas voir ailleurs. Y compris sur le visage, sur les parties intimes, etc.
D'accord.
Donc on est vraiment dans une forme de maltraitance extrême. Et donc, elle avait plus de 250 fois le nom de son ex-conjoint sur absolument le visage et 90% du corps. Tatoué en plus, le mec n'était pas tatoueur, donc avec des machines achetées sur des sites à pas cher fabriqués par des Ouïghours.
Voilà. Et donc elle a fait cet assaut. Donc, c'est quand on veut s'enlever le nom de son...
C'est quand on a été victime de tatouages, de mauvais traitements, en fait, de tatouages par mauvais traitements, c'est-à-dire tatoués de force, etc., dans les cas d'emprise. Donc, nous avons là la preuve d'une nouvelle forme de violence conjugale dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Autant vous dire que je n'ai pas passé une bonne journée.
Oui, en effet. Alors, il y a aussi le...
Pourquoi vous me regardez comme ça, Madame Ariette, enfin ?
Non, c'est parce que vous êtes en face de moi.
J'avais un tatouage sur le front.
Non, mais voilà. Effectivement, les tatouages peuvent être pour le coup, des mécanismes
d'emprise.
Ou alors plus que d'emprise, hein, d'esclavage sexuel, ce genre de choses, effectivement.
Mais c'est la fête, voilà, dites donc. Vous avez envie de rigoler ce soir.
Eh oui. Précisément parce que ça ne s'efface pas et que donc on ne peut pas s'enfuir.
Et donc, le détatouage, qui est certes douloureux, mais qui est surtout très, très onéreux, est pris en charge par cette association dans ce cadre-là.
Ah, mais c'est une très bonne initiative.
Et c'est dans quel pays, voilà, vous avez dit ?
Aux Pays-Bas.
D'accord. Moi, je pensais que c'était bien fréquenté, ce pays. Ben non. C'est comme partout ailleurs.
C'est compliqué.
Finalement.
C'est compliqué, les Pays-Bas. C'est compliqué.
Ben, c'est bas, hein, déjà. C'est en dessous du niveau de la mer. C'est embêtant.
C'est vrai. Non, mais c'est un pays qui en avance sur plein de trucs, mais... Mais pas surtout.
Visiblement.
Ah, j'aime bien quand M. Kogan est philosophe.
Oui, nous, on cherche sur quoi on est en avance. Là. C'est...
On n'a pas de pétrole et on n'a plus d'idées. Bon, d'accord.
C'est okay. Ça. Et on a toujours Michel Sardou. Donc, voilà.
Oui, mais ça pourrait se régler assez
assez rapidement. Oui.
Disons qu'en tout cas, plus rapidement qu'il n'a déjà, vous voyez. Alors, je vais vous parler d'un carreleur qui fut après journaliste, photographe, attaché de presse, publicitaire, écrivain.
Et ambassadeur portugais. Oh là 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 là.
Non, mais vous le connaissez très bien, M. Kogan.
Non, c'était pas bien, M. Kogan.
Ah bah non, bah non.
Vous le connaissez très bien, M. Kogan, puisque vous qui fréquentez les salles obscures, évidemment, vous allez tout de suite voir de qui il s'agit. C'est donc quelqu'un qui a fait fortune dans les années 70, puisqu'il a été le premier à importer sur les écrans français les films de Bruce Lee. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune. Et après, son nom est apparu plein de fois sur des cassettes vidéo, puisque c'était marqué « René Château présente ».
Ah oui.
Et alors moi, j'ai toujours cru que c'était une marque, mais non, le mec s'appelait vraiment René Château.
Et il était carreleur.
Et ça, c'est la classe.
Au départ.
Alors, il a fait plein de métiers, puisqu'il était très, très pauvre quand il a commencé. Alors, pourquoi je vous parle de lui ? Il est mort en 2024 à 84 ans, mais figurez-vous que là, dans la semaine qui s'est écoulée, tout ce qu'il avait assemblé, puisque c'était un collectionneur d'objets cinématographiques, a été vendu aux enchères. Donc un catalogue, plus de 1500 longs-métrages, et puis il avait tout un tas de trucs, des affiches, des documents, des photos de tournage. Et d'ailleurs, on y reviendra, puisqu'il avait récolté tellement de choses, notamment par ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande dans le milieu du cinéma, qu'il en avait écrit un énorme livre. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors, René Château, c'est aussi, évidemment, pendant plusieurs films, celui qui a mis Jean-Paul Belmondo tout en haut de l'affiche, notamment dans les années 70 et 80, avec les films comme Le Magnifique, L'Animal, Flic ou Voyou, Le Professionnel, L'As des As, Le Marginal. Donc quand même des gros tubes de Bébel. Bébel qu'il avait rencontré sur le tournage de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard en 65, puisque le réalisateur avait besoin pour une scène de jolies filles devant sa caméra.
Et René Château. Mais Jean-Paul Belmondo n'était pas une jolie fille.
Non, mais il avait besoin de justement, il n'avait pas ça sous la main, visiblement, Godard, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et donc, il connaissait René Château, qui était alors journaliste au magazine Lui. Je ne sais pas si on peut dire journaliste, enfin, je ne sais pas. Et du coup, il lui a rapidement rameuté des plémettes et tout ça, voilà. Et ça avait impressionné l'acteur, et donc, ils avaient sympathisé. Puis après, il est devenu, voilà, plus ou moins son agent, son producteur. Voilà, jusqu'à ce qu'il se fâche. rudement sur un film qui n'est pas resté dans la filmographie de Belmondo, puisqu'il s'agit de Joyeuse Pâques. Monsieur Coga.
C'est pas son meilleur.
Non, c'est pas son meilleur, avec la toute jeune Sophie Marceau à côté de lui. Voilà, voilà. Alors, dans les, vous voyez, par exemple, il a des plus de 7500 affiches de cinéma. Et donc, par exemple, une affiche de King Kong originale de 1933, dessinée par Ernest Chodzak. Et une autre, une affiche de M. Le Maudit de 1931, voilà, de film de Fritz Lang. Alors tout ça, c'est estimé 6 000, 7 000 euros pour juste l'affiche. Alors il déclarait, René Château, « Quand j'allais au cinéma, je m'échappais de la médiocrité de ma vie. J'étais Gary Cooper en guerre contre les Indiens, j'étais Errol Flynn dans L'Aigle des Mers, j'étais Burt Lancaster dans Règlement de compte à Hockey Choral. » Et donc, comme je vous l'ai dit, bah, il a pondu après un ouvrage de 500 pages sur l'occupation et le cinéma dans l'occupation. Et donc, en gros, il dit « Personne ne veut dire la vérité sur cette époque. La vérité se cache dans les archives, ouvrez les guillemets, disparues, dans les non-dits et les oublis de chacun. » Voilà, voilà, voilà. Alors, comme évidemment, il avait beaucoup aimé sa période Jean-Paul Belmondo, quand il rompt avec Jean-Paul Belmondo, il se dit, c'est pas grave, je vais lancer un autre acteur ou une autre actrice. Et à l'époque, il sortait avec une certaine Brigitte Lahaie, qui venait de mettre un terme à sa carrière pornographique. Donc il se dit, je vais en faire une actrice de cinéma. Et donc il a tenté de la lancer avec deux films, L'Exécutrice en 1986 et Les Prédateurs de la Nuit en 1987. Et comme vous pouvez tous le constater, tous ceux qui connaissent un peu le cinéma, c'est deux flops monumentaux qui ne sont absolument pas restés. Voilà.
Voilà.
Oui, là, je... Personne ne les a vus.
Bon, au-delà de la critique éventuelle sur sa qualité, de ses compétences d'actrice, il y a quand même aussi un vrai ostracisme qui est posé sur les gens qui ont commencé par ce cinéma de genre-là pour passer dans le cinéma classique. Il y a un vrai ostracisme.
Bon, ouais, non, mais elle n'est pas très douée quand même comme actrice.
Vu les titres, en plus, c'est pas le genre de film qui va à Cannes.
Non, mais bon. Les films qu'il a produits pour Bebel n'allaient pas à Cannes non plus. Hein.
C'est vrai.
Grand public d'action.
Effectivement, oui.
Et là, il a échoué.
Ouais, là, il a échoué. Alors, à un moment, on l'a même soupçonné d'avoir été le commanditaire de l'assassinat d'un autre personnage un peu bizarre du cinéma français, Gérard Lebovici, qui donc est mort en 84, assassiné dans un parking du 16e. Alors, vous allez voir, c'est quand même un personnage, je vous en dis juste deux mots rapidement, pour ceux que ça intéresse, vous irez voir. Donc, dans l'après-midi de sa mort, Gérard Lebovici, qui produisait des trucs de cinéma, il avait notamment produit Les Compères de Weber. Et donc, dans l'après-midi, là, il avait reçu un appel téléphonique de Sabrina, qui était la fille de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine.
Ah oui.
Ouais. qui avait été entendu aussi lors de son assassinat, Guy Debord, le pape des situationnistes. Bon. Puis, le crime n'est toujours pas résolu. Hein, et donc, dans la poche, il avait un papier froissé avec juste marqué 18h45, François. Voilà, on n'a pas retrouvé le François. L'ami de Jacques Mesrine, François Besse, était à l'époque en cavale. Donc les flics ont supposé qu'il ne pouvait pas être impliqué dans l'affaire. On s'est tourné aussi vers le milieu à l'époque du trafic clandestin des vidéocassettes. Vous voyez, donc c'est pour ça que René Château a été entendu. Bon, voilà. Et on disait que c'était un producteur qui ne mettait pas toujours de l'argent blanc dans les films qu'il produisait. Bon, voilà, mais on n'a pas réussi à trouver. Voilà. Alors, est-ce que. Alors, pourquoi. Ouais, je ne sais pas. Que dire de plus sur ce personnage Ah oui, François Besse, c'est aussi parce que. Donc, le fameux François Besse, l'ami de Jacques Mesrine, c'est parce que Gérard Lebovici venait de refuser d'éditer ses mémoires. Voilà. Ah. Alors, on s'est dit, peut-être il s'est vengé, mais enfin, c'est quand même un peu radical.
Oui, dites donc, si tous les écrivains repoussés par des éditeurs devaient avoir ce genre de comportement. Hein,
proportionné tout de même.
Voilà.
Oui, il y aurait du turnover.
Ah oui.
Oui, quand même, oui.
Oui, quand même, oui.
Voilà, en tout cas, j'ai découvert plein de choses à la lecture de cet article sur René Château, que moi, pour moi, c'était juste une marque.
Eh bien, on veut bien que vous nous donniez les références de cet article.
Mais c'est dans Le Monde. C'était un long article du Monde sur René Château à l'occasion donc, de la vente aux enchères de sa fabuleuse collection d'objets de cinéma.
OK.
Madame Henriette, est-ce que vous nous avez trouvé quelque chose ?
Eh bien, nous saluons Madame Ginette qui, appelée par des affaires pressantes, nous quitte.
Au revoir, bonne Madame soirée. Ginette, à bientôt.
Au revoir.
Et moi, je vous emmène en Antarctique, où ça va moyen.
Alors, juste au moment où les températures se réchauffent, vous avez décidé de nous glacer.
Eh bien, ça se réchauffe aussi en Antarctique, d'où le souci.
Ouais, enfin, ça ne doit pas être encore...
Eh bien, écoutez, pour les autochtones là-bas, si, c'est bien embêtant. Alors, les autochtones, ce sont des animaux, puisque c'est un continent qui n'est pas habité par l'homme.
Un tout petit peu, quand même.
Oui, alors, vous voulez parler des bases de chercheurs ?
Oui, il y a quelques bases, oui.
Oui, et puis quelques militaires aussi, bon. Voilà. Mais on va dire qu'au départ, voilà, c'était un continent vierge de toute occupation humaine. Et d'ailleurs, ça expliquait la tranquillité des espèces qui y habitaient.
Alors, quelles sont ces espèces ? Qui c'est qui vit là-bas, s'il fait si froid ?
Alors, on connaît bien sûr les manchots empereurs. Et donc, il y a un récent rapport de l'UICN qui se base sur les observations des dernières années, qui indique que le réchauffement climatique met en péril les espèces emblématiques de l'Antarctique, à savoir les manchots empereurs, les otaries des Kerguelen et les éléphants de mer. Alors, pour des raisons différentes. La cause, c'est bien le réchauffement climatique, mais, en tout cas pour les deux premiers, mais c'est chaque fois
comment
un
ça
phénomène
agit
différent.
Sur
Alors, les manchots empereurs, tout simplement, la glace recule. Or, les manchots empereurs, ils ont besoin d'une banquise pour à deux moments particuliers de leur existence, oui, et notamment pour élever leurs petits, surtout. Quand les bébés manchots sont élevés par leurs parents, avec une mortalité très importante, comme on le sait, c'est très difficile. Donc, c'est déjà un animal qui a une reproduction contrariée par son environnement très hostile. Mais là, en fait, tout simplement, la glace casse sous les colonies de manchots empereurs. Et donc, les petits
se noient.
Voilà, ne sont pas encore en mesure de nager et ils n'ont pas encore les plumes
qui leur permettent de résister.
Imperméables, tout à fait. Et donc, ils meurent de froid dans
l'eau.
C'est
super, dans de bonnes conditions en plus.
Et donc, on peut perdre des colonies entières de manchots dans ces conditions. Alors, tous les petits, en fait.
On ne peut pas mettre un peu de colle ou rendre la glace plus dure ?
Alors, il y a une solution, hein, ça serait d'arrêter d'envoyer tout ce CO2 dans l'atmosphère.
Ah ben j'ai vu que la France en 2025 avait été particulièrement minable là-dessus. Donc tout va bien.
Ou particulièrement performante, ça dépend dans quel
oui,
sens.
Oui, voilà, c'est ça. Dans ça dépend dans quel sens vous tournez. Ouais.
Deuxième moment critique pour les manchots empereurs, c'est quand ils changent leur plume, ils ont besoin de rester sur la banquise, puisqu'au moment de ce changement, eh bien, leur poil, toujours pareil, est moins imperméable. Et là encore,
la banquise casse.
Ouais, d'accord. Et on peut perdre donc des colonies importantes.
C'est bien pour les orques.
C'est bien pour les orques, mais s'il y en a en Antarctique ?
Oui, il y en a partout.
Il y en a partout, c'est pire que les humains.
Et ils sont drogués comme les requins au paracétamol et à la cocaïne.
Alors, notre deuxième victime, selon ce rapport de l'UICN, c'est l'otarie des Kerguelen. Alors, l'otarie des Kerguelen, elle se nourrit de krill. Vous savez, le krill, c'est ces minuscules, tout petits, comme les baleines. Les minuscules crevettes. Et le problème, c'est que le krill, avec le réchauffement des eaux de surface, eh bien, va plus en profondeur ou s'éloigne des côtes pour retrouver une température qui lui convient. Et l'otarie, lorsqu'elle se reproduit, eh bien, elle a besoin d'avoir du krill près des côtes, puisqu'elle élève ses petits sur les côtes. Donc là, le krill est trop loin, elle n'arrive plus à se nourrir suffisamment pour élever ses petits, et donc on a les otaries de Kerguelen, la population a été divisée par deux en 25 ans.
On est efficace hein, quand même, c'est bien
je
ça.
Je trouve aussi.
Et on ne peut pas les nourrir, on ne peut pas leur donner du krill.
Dernière, vous leur amènerez des crevettes si vous voulez. Dernière espèce, eh bien, là, c'est
donc, l'éléphant de mer.
L'éléphant de mer, qui lui est l'éléphant de mer austral, qui lui est depuis peu touché par la grippe aviaire. La grippe aviaire qui touche aussi les mammifères. Donc là, toujours pareil, des circulations modifiées par le changement climatique. Et puis,
donc des oiseaux, et voilà. Le virus tient mieux le choc.
Et puis également, les oiseaux peuvent être... c'est également une présence humaine de plus en plus importante hein, avec le tourisme. Le tourisme en Antarctique s'est largement développé ces dernières années. Et donc, on nous indique dans cet article du Monde daté du 9 avril que dans certaines colonies, 90% des petits sont morts de la grippe aviaire.
90%?
Oui.
Alors en plus, je pense que c'est pas facile la reproduction de ces gros machins. Hein, ça
oui,
m'a l'air,
et de toute façon, une fois qu'un animal est contaminé, comme ils sont tous collés les uns contre les autres sur les mêmes rochers, il est impossible d'empêcher la diffusion. Voilà trois espèces qui étaient à peu près tranquilles jusqu'il y a peu. Et qui sont désormais menacés grâce à nos bons offices. Et donc, à l'heure où le pétrole coûte beaucoup plus cher, l'essentiel et même la totalité de la réflexion va vers comment faire baisser le prix du pétrole pour en consommer toujours autant, voire plus. Et a priori, on n'a à peu près aucune réflexion pour réduire nos émissions. Voilà.
Mais non, mais la vie est belle pour nous. Nous, la banquise ne se casse pas sous nos pieds, Madame Henriette.
Voilà, c'est ça.
Eh bien, écoutez, vous avez une autre info ou on donne la parole à M. Kogan? Parce que peut-être
non,
que ce sera un peu plus rigolo ce qu'il va nous raconter.
On va en rester là parce que j'avais des choses pas du tout marrantes à vous raconter.
Oui,
bah,
écoutez,
donc,
après Madame Ginette et vous, c'est bon, quoi.
C'est vrai que pour fêter le printemps, on est moyennement joyeuse dans cette émission.
Je m'ennuie bien. Monsieur Kogan!
Alors, écoutez, pas la peine de vous époumoner comme ça. Mes chers compatriotes, hola! Eh bien oui, il fait chaud, je me souviens de la langue de mes ancêtres. Enfin, pas tous. Il fait peut-être d'ailleurs un temps un petit peu trop estival. Et j'ai bien cru que la chaleur me jouait des tours lorsque j'ai vu la photo de Donald Trump, Melania et un lapin géant au balcon de la Maison Blanche. Peut-être que vous avez vu ça, vous aussi.
Tout à fait. Et on s'est dit, tiens, voilà la relève.
C'était Pâques et il a parlé de guerre à des enfants en ajoutant qu'il avait tué Ben Laden. Bon, alors là, j'ai pris une douche froide et un Lexomil. Alors, plus sérieusement, comme tout va mal, eh bien, je vous propose deux films. Voilà, alors deux films. Un film écossais et, en fait, pour commencer, un film américain. Ça faisait longtemps. Eh bien, avec un acteur qui déteste Trump. Voilà. Et ça fait du bien aussi. Donc, il s'agit du film War Machine. Alors, vous allez me dire... On commence par la subtilité. C'est pas vraiment la spécialité de Patrick Hughes, qui d'ailleurs est un habitué des films mélangeant humour et action, comme les Hitman and Bodyguard, qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable dans l'histoire du cinéma, eux non plus.
On peut pas dire.
Là, il a choisi la simplicité, tant qu'à faire. Hein. Il a enlevé l'humour. Voilà. Donc, on a un scénar qui tient sur deux lignes, où ça rigole pas du tout, et sauf que, et c'est intéressant parce que le choix de l'acteur principal peut parfois tout changer, j'y reviendrai. Alan Ritchson, que je ne présente plus puisque c'est un acteur qui a vraiment explosé récemment dans une série, voilà. Donc, en soldat blessé qui veut intégrer les Rangers, part en exercice avec son escouade et tombe non pas sur un os, mais sur une machine de guerre venue de l'espace. Bon, voilà. On est vraiment dans la simplicité, sauf que la présence d'Alan Ritson transforme un potentiel navet, c'est le moins qu'on puisse dire, en action movie réglé au millimètre, avec son héros charismatique, bien froid comme on aime. Les scènes de combat, bah, c'est clair qu'elles sont sans fioritures. Le réalisateur ne recule devant aucun choc des images. Et on rentre dans ce petit film. Eh bien, écoutez, bien frais et bien reposant. C'est tout ce qu'on demande à ce genre-là. Et puis, ben, voilà, Alan Ritson, il est vraiment parfait. Alors, on monte bien sûr de niveau tout de suite. C'était juste pour vous rappeler quand même que de temps en temps, j'ai des plaisirs coupables. Mais revenons à des choses plus sérieuses avec le deuxième film pour ce soir.
Juste avant, M. Kogan, est-ce que vraiment il est nécessaire en cette période de dire que la carrière de cet acteur va exploser ?
Non, mais, je déconseille à Donald Trump de l'insulter quand même. Parce que
il a pas
s'il
l'air
le croise un jour... S'il le croise un jour, ça pourrait mal se passer. Voilà. Donc, le deuxième film pour ce soir n'a rien à voir. Ici, le héros n'est pas un guerrier, mais tout simplement John. John grandit paisiblement dans sa petite localité écossaise dans les années 80. C'est un jeune garçon qui rêve de foot professionnel et qui, évidemment, regarde les filles à l'école. Et bon, ben voilà, tout ça, c'est tout à fait normal. Sauf que quelque chose, très rapidement, ne va plus. Il commence à être maladroit, à avoir d'étranges douleurs, il devient impulsif, et puis surtout, il devient ordurier sans le vouloir. Vous avez compris, il faudra longtemps, mais c'est inéluctable, que lui soit diagnostiqué le syndrome de la Tourette, à l'époque totalement méconnu. Et donc, on le voit souffrir autant qu'espérer dans des situations parfois cocasses, parfois tristes, il faut bien le dire. Mais lui, il ne se décourage jamais et il va réussir, avec l'aide de quelques amis, à transformer ce handicap en un véritable, en un véritable cadeau. Hein. Et alors que c'est dur la vie quand on est atteint de ce syndrome. Et donc, il va devenir un facteur de dénonciation des discriminations, bien sûr. Le film est extraordinaire. On pense bien sûr à Ken Loach. Un petit peu plus drôle quand même, un petit peu plus léger, disons le Ken Loach de quelques films, on va dire. Alors que Kirk Jones était jusque-là connu uniquement pour des comédies, le réalisateur. Oui, mais voilà, le génie, c'est d'avoir donné ce rôle délicat à l'excellent Robert Aramayo, qu'on a vu dans Les Fleurs du Silence ou encore dans Les Anneaux de Pouvoir. Et là, eh ben, lui aussi... Il est omniprésent à l'écran, j'ose plus dire, il explose. Hein. Et on ne sombre jamais dans le ridicule ni dans le pathos, et c'est en cela où c'est vraiment réussi. On est bouleversé parce que cette histoire vraie est magnifique de volonté et d'espérance. Bon, on s'amuse quand même un petit peu, par exemple, avec la scène du tribunal, où voilà, il passe au tribunal, évidemment, pour un truc qui lui arrivait, hein, une incompréhension. Et c'est assez drôle de voir la difficulté qu'a le juge de garder son tribunal sérieux. Peter Mullan et Maxine Peak sont au top. Et voilà, et ben écoutez, c'est un véritable feel-good movie, il n'y a pas à dire. Et en ce moment, je trouve qu'on en a bien besoin. Alors, sinon...
Est-ce que vous nous rappelleriez le titre ?
Alors oui, alors eh ben écoutez, j'allais faire une grosse bêtise parce que le titre Alors le titre anglais c'est I Swear et le titre ça y est, j'ai oublié le titre en français.
Non mais on va le chercher, vous inquiétez pas, monsieur Kogan, on va le retrouver.
Donc du coup j'ai honte et pardon. Donc I Swear en anglais et donc
Eh oui, parce que vous l'avez vu en anglais.
L'histoire de John Davidson. Oui, mais le titre est en français au cinéma. Donc, je vais vous donner ça très rapidement dès que j'arrête de faire de planer.
Non, mais allez-y, allez-y, poursuivez, M. Kogan, bon, Mme Ariette va retrouver le titre.
Je suis sur le coup.
Voilà.
Vous êtes sur le coup. Alors, toujours dans le cinéma, on connaît la sélection du prochain Festival de Cannes. En compétition officielle, les derniers Almodovar et Sorogoyen, mais aussi autre chose que les films espagnols et par exemple, évidemment, des films japonais. Voilà. En hors compétition, le premier épisode de la bataille de Gaulle, intitulé « L'âge de fer hein, » d'Antonin Baudry, film historique très ambitieux, j'ai bien peur, peut-être trop. Alors, John Travolta et Daniel Auteuil, eux, seront là pour présenter leur film en tant que réalisateurs. Voilà. Et donc, bah écoutez, ce 79e festival commencera donc le 12 mai avec en ouverture la Vénus électrique de Salvadori. Et bon, bah écoutez, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre à part qu'on a eu des nouvelles. Alors, des nouvelles, ce n'est pas vraiment de Mathieu Perry lui-même, mais disons que quelqu'un a enfin été condamné pour la mort de Mathieu Perry. Voilà. Une personne dont je n'ai même pas envie de donner le nom et qui a donc pris 15 ans de prison, je trouve que c'est presque léger.
Voilà. Et le film dont vous nous parliez s'appelle Plus fort que moi.
Eh bien oui, voilà, évidemment, et ça se comprend. Pour une fois, le titre français n'est pas idiot, puisqu'il s'agit évidemment d'un garçon qui ne peut pas retenir ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Sinon, écoutez, le film dont je parlais la semaine, il y a 15 jours, je crois, ou je ne sais plus, la dernière fois que nous nous sommes parlé, eh bien, écoutez, l'affaire Abdallah est sortie. Donc, c'est le documentaire de Pierre Karl. Et je ne l'ai pas encore vu parce que, évidemment, il n'est pas énormément diffusé. Tiens, comme c'est bizarre. Voilà. Alors, peut-être quelques dates ou quelques hommages, comme vous voulez.
Mais fait commencer par les hommages, Monsieur Kogan, allez-y. Voilà.
Alors, parmi les hommages, évidemment, merci à eux. Peu de musiciens célèbres, disons, ont décidé de s'en aller. Merci, puisque seulement deux. En l'occurrence, Dashcroft, qui était un chanteur et un guitariste folk américain, il avait 87 ans, et Ross Friedman. Alors, Ross Friedman était évidemment connu, c'était Ross the Boss. En l'occurrence, il n'était pas si âgé que ça, mais c'était surtout un garçon qui avait été guitariste de Manowar entre 82 et 88. Et évidemment, je suis un grand fan. Voilà, voilà. Alors, parmi les autres artistes, entre guillemets, dans le milieu du cinéma, Alexander Kluge, ou doutez que c'est un Allemand, James Tolcone. Alors, James Tolcone, vous l'aviez sans doute vu dans Retour vers le futur et Top Gun. C'était un acteur avec une gueule très reconnaissable. Voilà, le mot est utilisé de cette façon-là. Jean Sagols, alors c'était un Français, acteur et réalisateur. Ah oui, on l'a vu, enfin, on a été obligé d'entendre parler de ce qu'il faisait, puisque c'était un peu le garçon qui réalisait les sagas de l'été là, qu'il y avait à la télévision pendant des années. Mary Beth Hurt, elle, était une actrice américaine, et on l'a vu dans Intérieur, dans Le Monde selon Garp ou dans Daryl. David Riondino était un chanteur, acteur, réalisateur, tout ce que vous voulez, italien. Lily Einstein, je ne sais pas comment ça se prononce, était une productrice française, directrice de festival, et c'est assez triste, hein, puisqu'elle avait 48 ans. Et Mario Adorf, et j'étais un grand fan de cet acteur, un acteur germano-suisse, il avait 95 ans, moi je l'avais découvert et il m'avait traumatisé quand j'étais enfant, dans une série qui s'appelait Via Mala, où il jouait un paysan d'une rudesse absolument phénoménale, extrêmement violent, et moi il m'avait traumatisé. Alors des années plus tard, je l'avais vu dans La Caverne de la Rose d'Or, c'était un petit peu plus gentil. Dans les autres artistes, alors évidemment du côté des littéraires, on va dire, Tracy Kidder, qui était une journaliste et une écrivaine américaine, Maurice Garden, qui était un historien spécialiste de l'époque moderne, un français, Dolores Dolores Camarca, qui était une Espagnole, La Marca, qui était une philologue espagnole, Ronald Spector, qui était un historien américain spécialiste de l'histoire militaire, Jean-René Fay était un poète et philosophe français, Glenn Baxter était un dessinateur anglais, Jean-Paul Krasinski, alors là j'ai une pensée particulière parce que certains de mes amis l'ont pleuré, le pleurent sans doute encore aujourd'hui, donc est disparu, c'était un dessinateur et un scénariste de BD, et un homme visiblement délicieux. Serge Imas était un écrivain et artiste andorran. Jean-Claude Losarmer était un historien et un médiéviste celtisant. J'ai plusieurs de ses ouvrages à quelques centimètres de moi au moment où je vous parle. Voilà, donc Kenavo. Jacques Armand Cardon était un dessinateur français. Et qui c'est que je n'ai pas cité ? Josep Piera, écrivain catalan, et Nani Cagnonet, qui était un poète italien. Quelques dates quand même, pour histoire de se remonter un peu le moral, parce que malgré les problèmes, malgré les départs, eh bien, la fête continue, comme disait l'autre. Alors, si vous le voulez bien, je vous donne quelques dates.
Mais oui, donnez-nous quelques dates, Monsieur Kogan.
Et au moment où vous nous écoutez, vous êtes peut-être en train de vous préparer pour courir, puisque voilà.
Non, certainement pas, Monsieur Kogan.
Pour courir au festival, ah bon. À un concert qui se trouve à l'étang de la Nôtre, donc c'est en Creuse. C'est un endroit que les gens connaissent, hein, Champagnat. Et donc, en l'occurrence, les petits-fils de Jeannine. J'aime bien ce groupe-là. La chanson française plutôt sympathique. Donc, fêtent leurs 15 ans. Donc, à l'étang de la Nôtre, à 21h30. Memorial, eux, joueront, c'est du psyché rock et c'est au calme, donc à Limoges. Hein. Les étudiants connaissent bien cette salle. Donc, le groupe Memorial, psyché rock UK, voilà, c'est donc à 19h au calme. The Nobodies Rock, écoutez, les Nobodies, c'est du rock et du pop rock. Eh bien, ils joueront Limoges à 19h30 ce samedi. Adi, donc c'est un concert un peu jazzy à 19h30. Là, c'est rue de la Croix-Rousse, 16 rue de la Croix-Rousse à Limoges. Voilà, donc là aussi, les Limougeaux connaissent bien cet endroit, à la Ruchidée, bien entendu. Ensuite, eh bien, écoutez, je peux vous parler aussi de GH. Donc GH qui sera en Bazac, c'est à la salle Molière à 19h30. Mais le gros événement, c'est quand même la tournée de Bertrand Belin, qui va faire à peu près toutes les grandes villes du Limousin sur le week-end, et donc entre autres au lendemain qui chante samedi à 20h. Exorciser jouera donc ce samedi au Peregrino, c'est en Dordogne. Alors vous allez me dire, c'est un peu loin la coquille, mais pas tant que ça, et puis surtout Exorciser est un groupe limougeau. Vivid Vision, eh bien, écoutez, c'est un concert aussi, un rendez-vous à l'international, hein, ce petit bar-restaurant que le Limoges Alternatif connaît bien, donc à Limoges, donc 10 places Haute-Vienne. Et pour revenir un tout petit peu en Creuse, il y a un gros événement autour du 14 avril. Alors, un gros événement parce que la bibliothèque multimédia du Grand Guéret organise une suite d'événements du 14 avril au 30 mai autour de deux artistes. Alors, un artiste tchèque qui s'appelle Pavel Maček et une artiste plus limousine, c'est difficile, en l'occurrence, la Marcel Delpastre. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'événements, des ateliers de conversation en occitan, des ateliers de conversation en français aussi autour de littérature, par exemple, mais aussi une exposition, évidemment, et différents événements, des clubs de lecture, du théâtre, etc. Et entre autres, j'avais noté, évidemment, une causerie du camarade Jean Domeyao. Voilà.
Qui est la cheville ouvrière de ces événements.
Eh bien, bien entendu, puisqu'il est l'héritier, entre guillemets, voilà, et il est salué, en effet, comme tel, l'héritier de Marcel Delpas. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme. Hein, c'est un gros projet donc, autour de cette exposition Marcel Delpas et Pavel Maciek du 14 avril au 30 mai. Donc, dans le cadre de l'hommage à Marcel Delpas depuis le centenaire l'année dernière. Et j'arrive pas forcément à retrouver toutes les dates, mais en tout cas, voilà, vous allez sur le site de la médiathèque et vous trouverez toutes les dates. Il y a plein de choses à faire et à voir, y compris en dehors de la médiathèque.
Mais vous aviez déjà parlé de Marcel.
Ah oui.
À plusieurs reprises.
Chaque fois qu'il se passe quelque chose autour de Marcel Delpas, je défends. Donc, cette personne. La causerie devrait avoir lieu, si je ne m'abuse, mardi 14 avril à 17h.
Voilà, ce sera l'auditorium de la BMI.
Il faut réserver ou c'est... Tout est gratuit, tous ces événements sont gratuits ?
Je crois bien que c'est tout gratuit. Voilà. Et donc, entre autres, là, il y aura... Donc, le nom, ça s'appelle Machka Gémé, Terre-Mère. Et donc, c'est à la rencontre de ces deux artistes qui ont travaillé sur des thèmes similaires. Dans des expressions artistiques différentes. Donc, c'est vraiment intéressant à tout point de vue. Le lendemain, un apéro-concert, Johnny Casino à l'International. Et puis, jeudi 16, vous avez toujours à l'International The Smart Hobos. Donc, grosse affiche, là. Gros agenda à l'International. Le duo MJ, hein, c'est du folk, blues, jouera au Limoges le 17, donc vendredi à 19h30. Le 17, c'est aussi les 3 ans du Dropkick Bar à Limoges. Alors, il y aura de la musique, bien sûr, et tout un tas de choses à faire, à avoir dans ce lieu que j'apprécie de plus en plus, donc le 17 avril à 20h. Écoutez, le concert qui devait avoir lieu il y a quelques temps de Cachemire et Lucy Sou aura lieu, et sans doute Crawford en première partie, aura donc lieu le 17 avril, lieu donc à John Lennon à 20h. Une restitution de résidence des Dragons dans les Halls, ça s'appelle Oura, et donc cette restitution aura donc lieu au lendemain qui chante à 20h30, c'est à Tulle, le 17 avril. Une sortie de résidence aussi, c'est un peu pareil. L'ensemble Les Méliades avec une pièce qui s'appelle Gare à vue à la ferme de Villefavard. Ne vous laissez pas tromper par le titre, puisque je pense qu'on est très loin de la Gaudriole. Il s'agit d'un ensemble vocal, donc avec plusieurs sopranos, une contralto, une mezzo-soprano, enfin bref, on est dans quelque chose qui est à la fois lumineux et tendu, c'est comme ça que ça se présente. C'est un spectacle très fort, porté donc par ce quintet vocal féminin.
En même temps, avec ce genre d'artiste, ça aurait été intéressant de la gaudriole.
Oui, je ne sais pas. Le 8e Rock Tattoo aura donc lieu le week-end du 18-19 à Cérillac. Les habitués connaissent déjà cet événement. Et le Rock Voltage 87, c'est le 3e du nom, c'est un petit festival qui cette fois-ci aura lieu au tiers-lieu, le bâtiment 25, et avec Star Rider, Blind Wisdom et Attic Sharks. Donc c'est à 19h le 18 avril, donc au bâtiment 25 à Limoges. Illumination, et là c'est un concert de musique classique bien sûr, samedi 18 avril à l'espace Simone Veil. Ryan en acoustique sera donc au Limoges à 20h30. Et puis, c'est tout pour la semaine pour moi. Alors, je pourrais quand même citer éventuellement d'autres petites choses que j'avais peut-être oubliées. Si vous avez une idée.
Mes fêtes, monsieur Kogan. Non, c'est bon.
Il y a toujours une résidence et donc sans doute quelques petits événements autour à Bellac. Donc au théâtre de Bellac, bien sûr. Hein. Donc ça s'appelle l'Inverso Collectif. Et donc cette résidence, c'est le théâtre, la compagnie. L'Inverso Collectif s'installe à Bellac. Et donc leur création s'appelle Asile. Voilà. Donc c'est quelque chose à suivre. Et donc la journée de théâtre ouvert sera proposée le samedi 18 avril. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Eh bien, écoutez, je ne voudrais pas être beaucoup plus long, si ce n'est que, on peut aussi aller à l'espace Nauriac, où il y a encore plein de choses, et en l'occurrence, Léo Ferré, par Jean-Claude Ribano, mais je ne suis pas sûr que ça, le 15 et 16 avril, ça vous remonte beaucoup le moral. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout pour moi.
Bah écoutez, chacun, on ne sait pas, des fois, Léo, si, peut-être qu'il y en a, ça, voilà, ça leur fait quelque chose au cœur et tout. Ça,
oui, ça je croyais que vous alliez nous parler du répertoire comique méconnu de Léo Ferré. Et
non,
en effet,
absolument
c'est,
pas.
C'est très, très méconnu.
C'est très méconnu, ouais. Mais moi, j'ai des bons souvenirs. Alors, vous allez me dire, j'ai des bons souvenirs avec Léo Ferré, peut-être pas, mais autour d'une soirée où j'ai fait découvrir un membre du Labour Party, un cadre du Labour Party, donc dans une soirée londonienne où j'ai fait découvrir Léo Ferré. Et ben voilà, c'était une très bonne soirée.
Alors, il était francophone, j'espère, parce que Léo Ferré, si c'est que
pas
la...
Pas du tout, c'est ça qui était vraiment très amusant.
Si c'est que la musique et les arrangements, comment dire ?
Madame Henriette, enfin, un peu de respect.
C'est ça qui était très amusant. Non, pour finir, et là, c'est beaucoup plus sympa, je vous rappelle que se termine donc un festival qui s'appelle Festival Rêve de Japon, qui a couru donc pendant 15 jours, et ça se termine, mais il y a encore des choses à faire. Donc, c'est du 1er au 30 avril 2026, on n'en avait pas parlé jusque-là. Donc, voilà, et c'est au Temps de Vivre, c'est un café-librairie où il se passe plein de choses à Aix-sur-Vienne. Ça s'appelle donc le Rêve de Japon Festival. Et là, il y a plein d'événements à voir, à découvrir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous reparlerai de plein d'autres choses la prochaine fois.
Eh bien, écoutez, merci, Monsieur Kogan, pour cet agenda très chargé pour quelqu'un qui devait plus s'en occuper. Ma foi, vous avez du mal à faire le tri dans les dates.
C'est ça.
Ben c'est très bien, ben écoutez. On est heureux de vous avoir, en tout cas, de vous avoir eu à l'antenne, ainsi que Madame Ginette et Madame Henriette.
C'était votre au revoir à nos auditeurs ?
Mais on vous dit au revoir maintenant, absolument.
Excellente semaine à tous.
Kenavo.
Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuit sans lune, à chercher la taverne dans mon cœur, tout comme autant de fleurs où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait. Et la chanson que la nuit m'apporte, mon cœur déjà ne la connaît.